du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La nuit, mes chers frères, on dort, c'est bien connu. Eh bien, cette nuit-là, croyez-moi, on dormait à point fermé. Je n'évoque pas seulement cette nuit d'il y a 2000 ans, cette nuit de Bethléem, où, nuit d'entre les nuits, la Vierge Marie donna naissance à rien moins qu'au Fils de Dieu. Non, je veux parler de cette nuit un peu plus longue, un peu plus dure, cette nuit des ténèbres épaisses dans lesquelles se tenait l'humanité depuis quelques siècles, pour ne pas dire depuis quelques millénaires, lorsque le Fils de Dieu prit chair et qu'il naquit dans la grange, dans la crèche de Bethléem. Tout le monde dormait. Tout le monde dormait, à commencer par les païens. Les païens de l'Empire, que faisaient-ils ces braves gens? Et ils avaient rêvé pendant un temps que l'empereur qui régnait alors, l'empereur Auguste, César Auguste, dont nous parle l'évangile d'aujourd'hui, allait parvenir enfin à instaurer la paix. Un nouveau chef d'État pour l'Empire, et à nouveau ce rêve récurrent chez eux qu'un homme parviendrait à établir la paix. On l'appelait le prince de la paix, ce César Auguste. Et comme pour se persuader que tout était possible, et qu'enfin sur ce territoire immense, qui était le territoire de l'Empire, enfin la paix civile, enfin la concorde allait régner, comme pour s'en persuader, on se berça d'illusions à la manière dont on s'enivre de plus ou moins bon vin. Ils aimaient à tenir l'empereur pour plus qu'un simple homme. Voilà le subterfuge qu'ils avaient inventé. On avait divinisé l'empereur. Et c'est singulièrement du temps de César Auguste qu'on divinisa l'empereur. Auguste, qu'est-ce que ça veut dire? Auguste se traduit en grec par Sébastos. Et Sébastos, voyez-vous, ça veut dire l'adorable, que Sébastien entraîne de la graine, lui qui est ici. L'adorable, ça veut dire le divin. Auguste revendiquait le rang divin, et on pensait que puisqu'il était de rang divin, eh bien ma foi, instaurer la paix ne serait pour lui qu'une petite bagatelle. En témoignent aussi les écrits de l'époque, dithyrambiques à l'endroit d'Auguste, puisque on l'appelait rien moins que le sauter. Le sauter en grec, rien à voir avec le sauter, le sauter en grec, ça veut dire le sauveur. Quelle déconvenue pour l'Empire lorsqu'on découvrit qu'Auguste, certes bon gestionnaire, et même excellent gestionnaire, s'était révélé en fait semblable à tout autre, dur à la discipline, n'excluant ni la ruse ni la violence pour parvenir à ses fins, du sauveur qu'on escomptait et de la paix qu'on attendait lorsqu'il vint sur le trône, on n'obtint rien. Alors, du lourd sommeil des lendemains de fête, dégrisés, revenus de leurs illusions, les Romains n'osaient plus attendre de sauveur. Voilà pour les païens. Venons-en aux Juifs, car c'est ceux qui nous intéressent, puisque c'est de leur sein que naquit notre sauveur. La situation de la terre promise, vous le savez, livrée au gré de l'Empire, dirigée d'une main de fer par la dynastie illégitime des Iduméens, qui n'étaient sur le trône de David que par la grâce de l'empereur, ce genre de situation politique, évidemment, plongeait dans une grande perplexité le peuple juif. Parce qu'enfin, depuis des siècles, il avait été mis à l'écart, et après le règne des juges était advenu le règne des rois, et que l'on comptait sur Dieu et sur Dieu seul pour mener ce petit troupeau chéri de Dieu. Alors que Dieu laissa l'empereur et ses rois iduméens, qui n'avaient rien de juif, gouverner les peuples et les gouverner jusqu'à les écraser, on ne comprenait pas. C'était, aux yeux des Juifs, la Shoah, le silence de Dieu. On ne comprenait pas. Alors, on attendait bien un sauveur, puisque les Écritures l'avaient promis, mais enfin, on trouvait le temps long tout de même. Comme pendant ces 40 ans au désert, comme pendant ces années de captivité en Égypte, comme pendant cette déportation en Babylone, on se retrouvait là, on attendait le sauveur, mais enfin, pour une bonne part de la population, on n'y croyait plus trop. Ou on se trompait de nature du sauveur, voyez. On n'en pouvait plus attendre, on s'était assoupi, on s'accommodait, pour tout moyen de salut, de l'application scrupuleuse de quelques préceptes juridiques qui certes avaient leur origine en Dieu, mais qui en réalité étaient totalement écrasés sous des interprétations toutes plus humaines les unes que les autres. C'est vous dire que, et chez les païens, et chez les juifs, en fait de sauveur, on était bien mal parti. La loupiote mensongère qui éclairait au sein de la ténèbre l'Empire, cette loupiote du rêve du salut des hommes par un homme, parce que l'empereur n'était qu'un homme, cette loupiote du temple, qui normalement devait signifier la présence de Dieu, le Très-Haut, dans le Saint des Saints, on ne la regardait plus guère, en réalité. Par habitude, rituel, on y venait, on entretenait le feu sacré, mais en réalité, on n'attendait plus de sauveur. Et tout à coup, qu'advint-il ? Eh bien, la nuit, au beau milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Comme dans la parabole, vous savez, de ces vierges, ce cri magnifique au milieu de la nuit, un cri se fit entendre, « Voici l'époux qui vient, allez à sa rencontre !» Alors ça s'est fait sur un mode un peu différent, puisque l'ange a employé des paroles un peu différentes. Il leur a dit « Je vous annonce une grande joie !» On n'attendait plus rien, et pourtant les fêtes sont là, cette nuit-là. L'ange, et même les myriades célestes, se présentent devant les pâtres de la région de Bethléem pour leur dire quoi ? Aujourd'hui, le Sauveur est né, qui est le Christ Seigneur. Pardon, mais quand on est dans un monde qui n'attend plus rien, comme celui de l'Empire païen ou comme celui du peuple juif qui est infidèle aux promesses, entendre ce cri dans la nuit, voyez-vous, ce n'est pas anodin. Le Sauveur vous est né. Enfin, ce Sauveur qu'on n'attendait plus. Le Sauveur de la cité qu'attendaient les païens, sans trop savoir de quoi il s'agissait, voici qu'à leurs oreilles tinte le cri de l'ange. Il a fallu bien sûr quelques semaines pour que ce cri de l'ange parvint aux oreilles des mages ou aux oreilles des païens. Mais si Hérode a été au courant aussi rapidement de la situation, c'est bien que les Romains de la cité de Jérusalem furent également au courant très rapidement. Les Juifs, entendant ce cri, évidemment, eux qui désespéraient ou qui se lamentaient, enfin virent la main de Dieu courir à leur secours. Et ils purent enfin se relever. Le Sauveur qu'annonce cet ange, allons voir à quoi il ressemble. C'est ce que se dirent les païens et ce que se dirent les juifs d'un même cœur. Et lorsque l'ange détailla la figure du Sauveur, là, la déconvenue fut grande. Parce que qu'annonce l'ange au peuple, il leur dit, vous aurez comme signe un enfant dans des langes placé dans une crèche. Là, avouez qu'elle était un peu forte. Un gamin emmailloté, et en plus un gamin pauvre, voilà ce qu'on proposait en lieu et place du Sauveur attendu par les païens et du Sauveur attendu par les Juifs. Entendez-les, ces païens, quelques années plus tard. Ces païens à la Pilate dubitatif ironique. Alors tu es roi ? Avec le rictus qu'on imagine à la bouche de ce soldat dont on fait un type sympathique trop souvent, parce qu'en réalité, il paraît qu'il n'était pas si sympathique que ça, au regard de l'histoire. Entendez-vous les Juifs du Sanhédrin, là encore, devant celui qui fut un enfant dans la crèche et qui n'apparut que comme un homme aux yeux de tous ces Juifs érudits, haineux parce que déçus au fond que leurs espérances d'un sauveur, que ce cri de l'ange, un sauveur vous est né, n'est abouti qu'à cela, un petit gamin à Nazareth devenu leur rabbi Jésus et mort vilement sur une croix quelques années plus tard. Voyez, es-tu le fils du béni, lui dit-on devant le Sanhédrin. Il a blasphémé parce qu'étant homme, il se fait Dieu. Vous voyez, la lumière a surgi à Bethléem il y a 2000 ans, mais le spectacle n'a pas été du goût de tout le monde. Je dirais même que le spectacle a été du goût d'une minorité. Trop pâlote cette figure. Trop pâlote cette petite lumière, ce feu de Bengale dans la nuit. Pas assez tapageuse, vous voyez. Le monde aime le tapage. Les païens comme les juifs et comme les païens et les juifs actuels. Comprendre la quasi-totalité du monde. Alors, qu'a-t-on fait ? On l'a ignoré superbement, cette lumière. On n'en a pas voulu. Les ténèbres, la lumière est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas saisie. Ne l'ont pas saisie, on peut le comprendre de deux manières. Ils n'ont pas pu s'en emparer pour l'écraser, cette petite loupiote qui les avait déçus. Et ils n'ont pas pu non plus la saisir, c'est-à-dire la comprendre, comprendre que dans ce petit enfant, dans cette petite lumière dans la nuit, gisait rien moins que le Fils de Dieu et le seul Sauveur qu'a jamais porté la terre. Voyez, mes frères, cet enfant lumière n'a pas trouvé grâce auprès de grand monde. On a cru que le plan du Père avait tourné court. Et fort heureusement, Dieu savait, lui, de toute éternité, qu'il y aurait un petit reste, que certaines personnes, certains esprits bien faits, droits parmi les païens, que certains pauvres de Dieu, les Anawim dans le peuple élu, étaient tout tendus vers le Sauveur. Leur bonne volonté à ces païens, ce furent les trois mages, enfin les trois, L'Écriture nous dit des mages, la tradition nous dit trois, peu importe. Ce sont les mages. Cet esprit bien fait, cette intelligence conséquente et de bonne volonté qui, n'ayant pas la foi, néanmoins, aboutit au sauveur à Bethléem. Et puis, la petitesse de ces Jérusalémites et de ces Juifs qui étaient tout tendus vers la venue du sauveur, pour lesquels, finalement, la loi n'était que secondaire. La seule chose qui importait, c'était cette écoute quotidienne de Dieu. Shema Israël, écoute Israël. Le Seigneur ton Dieu est l'unique. Vous voyez ? Il viendra à ton secours. Voilà donc que Dieu savait de toute éternité qu'un petit resté chez les païens et chez les juifs, lui, saurait accueillir son fils sous les traits de l'enfant Jésus à la crèche. Mes amis, le choix est simple. Serons-nous de ces païens et de ces juifs qui, du haut de leur loi ou du haut de leur raison raisonnante, donnent des leçons à l'univers entier et refusent de s'incliner devant l'enfant Jésus ? C'est-à-dire refuse la simplicité de l'esprit, refuse d'être, comme le disent les béatitudes, eh bien, ces pauvres de cœur, ou est-ce que nous voulons être de ces anawim, de ces esprits conséquents, humbles, même chez les païens, qui s'inclinent devant l'enfant Jésus et qui se réjouissent de peu. Voilà ce dont nous avons grand besoin aujourd'hui, mes frères, et nous aussi, nous qui pourtant avons la foi, et parfois la foi depuis des années. Nous avons besoin, parce que nous sommes gavés, parce que nous sommes de cette partie de l'humanité qui a tout à ses pieds et qui ne cesse de se plaindre, nous avons besoin de revenir à des choses simples. Eh bien, Dieu en a le génie de ces choses simples, puisque ce soir, il nous propose son Fils dans une mangeoire, enveloppé dans des langes, avec un homme, une femme, peut-être le bœuf et l'âne, on ne sait, et quelques bergers. Vous voyez que la vie est simple, le bonheur est simple, finalement. Il nous faut simplement venir devant Jésus et nous incliner et nous dire que nous lions désormais pour l'éternité notre sort à lui, quelles que soient les oppositions, quelles que soient nos questions intérieures, nos bouleversements, nous sommes devant cet enfant totalement certains qu'il est notre sauveur. Voilà la grâce que nous devons demander à Jésus, voilà cette joie qu'il nous offre de croire, d'être persuadé contre vents et marées, quels que soient nos bouillonnements intérieurs, encore une fois, quelles que soient les oppositions que nous essuyons, les ricanements, car des ricanements j'en ai essuyé ce soir même, dans les rues de Paris, parce que j'étais vêtu ainsi, et que le 24 décembre, on sait encore, dans les terres de France, ce que cela signifie. En gros, j'étais le petit farceur qui croyait encore à une sorte de Père Noël qui allait venir dans une crèche. Mais mes amis, c'est là notre richesse, c'est là notre trésor. Alors, soyons dans la joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.